إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer inshallah tabaraka wa ta'ala le récit de Suleyman alayhi salam, grand prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et un de ses serviteurs rapprochés. Il est le fils de Daoud alayhi salam et son héritier à la prophétie et à la royauté. Il avait la charge de la gestion de son peuple, de son royaume, et jouissait à l'instar de son père d'une excellente notoriété. Daoud alayhi salat wa salam avait 12 fils, et il choisit comme successeur et héritier au trône son fils Suleyman. Quant au bien matériel de Daoud, personne de ses descendants n'en toucha quoi que ce soit, car on n'hérite pas des prophètes et des messagers des biens matériels. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, d'après le hadith de Abi Bakr radiyallahu anhu, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari sur le numéro 4036, le prophète a dit, nul n'hérite de nous, ce que nous laissons est une aumône. De ce fait, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Sourate 27, verset 16. Suleyman hérita de Daoud. Et il dit, ô gens, le langage des oiseaux nous a été enseigné et de chaque chose une part nous a été donnée. C'est bien cela la faveur manifeste. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, c'est-à-dire que Suleyman a hérité de Daoud la prophétie et la royauté et non les biens matériels, car il avait d'autres fils, et il ne pouvait le faire hériter à l'exclusion des autres. Ainsi, plusieurs compagnons rapportent que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, nous les prophètes ne laissons rien en l'héritage, les biens que nous laissons derrière nous sont une aumône. Et dans une autre version, nous les prophètes ne léguons rien en héritage. Le plus véridique des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que l'on n'hérite pas des biens des prophètes, au contraire du commun des gens. Mais leurs biens sont des aumônes destinées aux pauvres et aux nécessiteux, et non à leurs proches. Ceci, car ce bas monde était pour eux insignifiant et revêtait peu d'importance à leurs yeux, comme il l'est pour celui qui les a envoyés, tabaraka wa ta'ala, élu et préféré à toute l'humanité. Le prophète Suleyman alayhi salat wa salam adressa ses paroles devant une assemblée de gens, parmi les gens de sa cour et ses administrés, et le but de cette parole, lorsqu'il dit « Ô gens, le langage des oiseaux nous a été enseigné, et de chaque chose une part nous a été donnée », c'est bien là la faveur manifeste. Le but de cette parole était de montrer tout d'abord sa gratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala face à tous ses bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a octroyés, mais aussi de montrer aux gens sa légitimité en tant que prophète roi et l'obligation de lui obéir et de rentrer sous ses ordres. Donc cette parole n'avait pas pour objectif ou pour but la vantardise de ses mérites devant les gens, et la simple démonstration de sa supériorité par ses faveurs. D'ailleurs, cela est comparable à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. Je serai à la tête des fils d'Adam le jour du jugement et cela sans prétention, c'est-à-dire je serai le meilleur d'entre eux. Celui qui bénéficiera des plus de bienfaits et de clémence le jour du jugement. Ce hadith, vous pouvez le retrouver dans le Sahih de Al-Jami' al-Sahih, sur le numéro 1468. Donc c'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani. Dans ce hadith, on comprend bien que le prophète, alayhi salat wa salam, a dit cela non pas par prétention, mais pour informer de son statut et montrer par cela sa légitimité à être obéi et suivi. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô homme, le langage des oiseaux nous a été enseigné et de chaque chose une part nous a été donnée, en reprenant les paroles de Suleyman. Et cela signifie que Suleyman connaissait le langage des oiseaux, desquels il traduisait les intentions et les désirs aux gens. Il en était de même pour tous les animaux et les autres créatures, comme cela apparaît dans sa parole, et de chaque chose une part nous a été donnée, c'est-à-dire toute chose nécessaire à la royauté comme équipement, outils, armées, soldats, que ce soit des hommes ou des djinns, des oiseaux, des animaux et des démons. Il possédait science et connaissances et il avait la capacité de comprendre et d'exprimer les pensées des créatures, qu'elles soient douées ou non de parole. Fin de citation. On remarquera ici que Suleyman, alayhi salam, cita parmi les espèces dont il comprenait le langage, les oiseaux, qui sont parmi les espèces les moins apprivoisables. Cela sous-entend qu'il comprenait aussi le langage d'animaux plus apprivoisables. Et cela est corroboré par ce qui va suivre, lorsqu'il comprit le langage des fourmis. Connaître leur langage lui permettait de s'enquérir des nouvelles dans différents endroits, plus ou moins éloignés, et d'améliorer la gestion et la gérance de son royaume. Il dit ensuite, alayhi salam, c'est bien cela la faveur manifeste de la part du Créateur des cieux et de la terre. Reconnaître les bienfaits d'Allah sur toi est une forme de reconnaissance et de gratitude envers lui. Et celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il lui a octroyés bénéficiera de deux choses immenses. La première, il verra ses mêmes bienfaits être préservés et maintenus de telle sorte qu'il ne cessera d'en jouir. Deuxièmement, il bénéficiera de la part d'Allah d'autres bienfaits qu'il n'avait pas auparavant. Suleyman, alayhi salat wa salam, exprimait beaucoup de gratitude et de reconnaissance vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. À la suite de cela, Allah nous dit, tabarak wa ta'ala, dans cette même sourate 27, le verset 19, ou le verset 17 à 19, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Dans le sens des versets, les troupes de Suleyman, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées à son intention et mises en rang, c'est-à-dire soumis à ses ordres et ses interdictions. Lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une d'entre elles dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent, sans s'en rendre compte. » Il sourit, c'est-à-dire Suleyman, amusé par ses propos et dit « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes pères et mères. Permets-moi également d'accomplir de bonnes œuvres que tu agréeras et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit: Allah rappelle que son serviteur et prophète Suleyman, fils de son prophète Daoud, est sorti un jour accompagné de toutes ses armées de djinns, d'humains et d'oiseaux. Les humains et les djinns marchaient à ses côtés, tandis que les oiseaux le survolaient, le protégeaient de leurs ailes, de la chaleur et d'autres choses encore. À la tête de chacune de ces trois armées, il y avait des chefs chargés de l'organisation, si bien qu'aucun soldat ne déviait de sa place. Fin de citation. Allah tabaraka wa ta'ala a cité ces trois catégories, les djinns, les hommes et les oiseaux parmi ses armées. Les djinns qui faisaient face aux forces cachées, comme les démons, les hommes qui affrontaient les ennemis et conjuguaient leurs efforts à la garde de ce royaume, Et les oiseaux qui étaient chargés de rapporter des nouvelles, des informations ou encore de porter des messages dans des endroits plus ou moins éloignés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens des versets, lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une d'entre elles dit, ô fourmis, s'adressant à ses sœurs, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte. Cette fourmi a mis en garde ses semblables, car Suleyman et ses armées pouvaient les écraser sans s'en rendre compte. Lorsque Suleyman comprit la parole de cette fourmi, il sourit par étonnement sur le fait que cette fourmi connaissait son nom. Mais pas seulement. Elle savait aussi que lui et son armée étaient des gens de compassion et de miséricorde et qu'ils ne tuaient pas des êtres vivants pour rien. Lorsqu'elle dit « Ô fourmi, entrez dans vos demeures de peur que Suleyman et ses armées ne vous écrasent sans s'en rendre compte, car s'ils savaient votre présence, ils ne vous piétineraient pas. » Allah subhanahu wa ta'ala a montré la justice et ses effets bénéfiques de Suleyman par le biais d'une fourmi. Et cela poussa Suleyman à remercier son Seigneur. L'essentiel ici est que Suleyman, alayhi salat wa salam, comme le souligne Ibn Kathir, comprit les paroles et les conseils sages et avisés qu'adressa cette fourmi à sa communauté, et il sourit, heureux de cette faveur qu'Allah lui a accordée à l'exclusion de tout autre humain. Contrairement à ce que prétendent certains ignorants, disant qu'avant Suleyman, les animaux parlaient aux hommes, jusqu'à ce que Suleyman les fasse taire et prenne de l'engagement de ne plus parler aux gens. Seuls des ignorants peuvent dire cela, car si tel avait été le cas, Suleyman n'aurait eu aucun mérite à connaître le langage des animaux puisque tout le monde le comprenait. Et s'il avait pris de l'engagement de ne pas parler à autre que lui, alors que lui comprenait leur langage, il n'y aurait alors aucun avantage à faire valoir ce don incomparable. C'est pourquoi il dit « Permets-moi Seigneur, c'est-à-dire inspire-moi et guide-moi, de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes pères et mères. » Permets-moi également d'accomplir de bonnes œuvres que tu agréeras et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Il demanda ainsi à Allah de lui permettre de lui rendre grâce pour les bienfaits qu'il lui a accordés et pour la faveur dont il lui a fait don à l'exclusion des autres. Il lui demanda également de lui faciliter l'accomplissement des œuvres vertueuses et de le ressusciter avec ses serviteurs vertueux. Et Allah exauça toutes ses invocations. Sa parole, lorsqu'il dit « Mes pères et mères, permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait que tu m'as accordé ainsi qu'à mes pères et mères. » Mes pères et mères désignent son père Daoud, alayhi salam, et sa mère, Beth Yeshba, Bethsabé, qui était une adoratrice pieuse. Il cita ici ses deux parents car la droiture de l'enfant est un bienfait accordé aux deux parents. Juste après, Allah tabaraka wa ta'ala va nous relater une histoire pleine d'enseignements dans le Coran qui fait suite à ces événements qu'ont traversé ou qu'a traversé Suleyman et son armée dans cette vallée de la des fourmis. Allah dit tabaraka wa ta'ala wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara al hudhud am kana min al gha'ibin لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Ce sont les versets 20 à 26 de la sourate 27. À la suite de ce que nous avons déjà cité. Allah dit dans le sens des versets, puis il passa les oiseaux en revue et demanda « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Je la châtirai sévèrement ou je l'égorgerai à moins qu'elle ne m'apporte un argument clair. » Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit « J'ai connaissance d'une chose qui t'a échappé, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé une femme à la tête de leur royaume. Tout a été mis à sa disposition et elle possède un magnifique trône. Je l'ai trouvé ainsi que son peuple en prosternation devant le soleil au lieu d'Allah. Le diable leur a embelli leurs actions et les a ainsi détournés du droit chemin. Ils ne parviennent donc pas à être guidés. Que ne se prosternent-ils devant Allah tabaraka wa ta'ala, qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône immense. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne la conversation entre Suleyman et la huppe. La huppe qui est une espèce d'oiseau, qu'on appelle en arabe el-hudhud. Chaque espèce d'oiseau avait un commandant chargé de missions précises et qui venait régulièrement au rapport à l'instar des armées avec leur roi. La fonction de la huppe, selon Ibn Abbas et d'autres, consistait à rechercher des points d'eau au cours des voyages. Allah subhanahu wa ta'ala a doté la huppe d'une capacité qui lui permettait de détecter l'eau dans les profondeurs de la terre. Lorsqu'elle leur indiquait la présence d'eau, ils creusaient la terre, puisaient l'eau et l'utilisaient pour leurs différents besoins. Or un jour, Suleyman convoqua cette huppe et ne la trouva pas à sa place habituelle. Il dit « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Pourquoi est-elle absente? Ou pourquoi ne l'aperçois-je pas ?» C'est-à-dire qu'il demanda sur le fait qu'il ne la voyait pas, est-ce parce qu'elle était absente ou bien qu'elle sortait de son champ de vision? Je la châtierai sévèrement, c'est-à-dire qu'il la menaça d'un sévère châtiment après avoir eu la presque certitude qu'elle n'était pas présente. Cette punition surviendrait si Suleyman a.s. voyait en elle des signes de réforme et d'amélioration de son degré d'obéissance. C'est-à-dire qu'il s'abstiendrait de la tuer s'il voyait des signes de regret ou des signes d'amélioration de sa situation et de son degré d'obéissance. Ou bien je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte un argument clair. Cette exécution surviendrait si Suleyman a.s. ne voyait pas en elle ces signes de réforme et d'amélioration de son degré d'obéissance. Elle aurait alors pour effet de dissuader cette exécution les autres membres de son armée de contrevenir aux ordres. Il y avait une troisième alternative, ou bien qu'elle ne vienne avec une justification qui la sauvera de cette mauvaise posture. Sans cette excuse, le châtiment ou la mort était certain. Allah dit tabarak wa ta'ala, mais elle n'est restée absente que peu de temps. Et dit, cette huppe, j'ai connaissance d'une chose qui t'a échappé, s'adressant à Suleyman. C'est-à-dire que je sais ce que tu ne sais pas. Et je te rapporte de Saba, du royaume de Saba, une nouvelle sûre, c'est-à-dire véridique. Certes, j'ai trouvé une femme à la tête de leur royaume, tout a été mis à sa disposition et elle possède un magnifique trône. La huppe décrivit ainsi la situation des rois de Saba au Yémen, qui avaient bâti un immense royaume. La royauté était détenue par une femme qui était la fille d'un roi mort, sans laisser d'autres enfants qu'elle, et ils la prirent comme reine. On l'appelait ainsi Bilqis, selon les historiens. Saba est le surnom d'Abbashams, Abbashams, qui est le fils de Yashjub, qui est le fils de Ya'rub, qui est le fils de Qahtan. Et Qahtan est un des descendants de Sem, le fils de Nour, Noé. Abbashams, qui est, on va dire, le fondateur de la dynastie de Saba ou du royaume de Saba, s'installa, prit le pouvoir après la mort de son père Yashjub, qui, ce dernier avait déjà fondé la ville de Sana'a au Yémen, et Abbashams fonda la ville de Ma'arib, qui deviendra la capitale du royaume de Saba. Après Saba, c'est son fils Himyar qui lui succéda et retourna à la ville de Zofar, dans l'actuel Oman. Zofar était une ville qui avait été fondée par son arrière-grand-père Ya'rub. Donc, dans toute la partie sud de l'Arabie, il y avait trois grandes tribus et qui se conclua par trois grands royaumes à travers le temps. Les Sabéens, les Himyarites et les Yéménites. As-Sabaïyoun, Wal-Himyariyoun, Wal-Yamaniyoun. Chacun des rois de ces trois grands peuples était appelé Toubba, de par le fait qu'ils avaient de nombreux suiveurs. Les Sabéens, quant à eux, ont eu le pouvoir dans l'Arabie du Sud aux alentours du 10e siècle avant la naissance de Isa ibn Maryam. Le plus célèbre de leurs souverains est Al-Hidhad ibn Shurahbil ou Sharahil, qu'on surnommait Al-Yasharah. Et ce fut lui le père de Bilqis, dont nous allons parler, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers la biographie de Suleyman. Que nous dit cette huppe? Elle commença son propos en qualifiant son information de sûre et solide, en disant, « Et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre, dans laquelle il n'y a aucune confusion. » Puis elle dit, « Certes, j'ai trouvé une femme à la tête de leur royaume, tout a été mis à sa disposition et elle possède un magnifique trône. » En commençant par « certes » pour affirmer une chose qui n'était pas habituelle chez les enfants d'Israël, à savoir qu'une femme pouvait diriger un peuple. C'est pour cette raison qu'elle dit « certes, j'ai trouvé une femme à la tête de leur royaume » et elle n'a pas dit « je les ai trouvés et à leur tête une femme ». Elle a mis en avant le fait qu'il y avait une femme à la tête de leur royaume, comme pour montrer son étonnement face à une chose inhabituelle chez eux et même aussi sa désapprobation qu'une femme puisse diriger des hommes de ce type de gérance, la gérance générale globale. Cette femme est Bilqis, comme nous l'avons dit, selon les historiens, qui était une femme intelligente et prudente dans ses choix et ses décisions. Cette huppe continua et dit « Tout a été mis à sa disposition, c'est-à-dire tout ce que les rois possèdent. Et elle possède un magnifique trône. Son trône était orné de toutes les variétés de joyaux, de perles d'or et de pierres précieuses. » Puis la huppe mentionna leur mécréance en réitérant le verbe « je les ai trouvés ». Comme pour montrer ici sa désapprobation une nouvelle fois. Elle dit « je les ai trouvés ainsi que son peuple en prosternation devant le soleil au lieu d'Allah ». Le diable aura embelli leurs actions et les a ainsi détournés du droit chemin. Ils ne parviennent donc pas à être guidés. On comprend de la parole de la huppe sa désapprobation face à leurs agissements et actes de polythéisme. Car elle dit, le diable leur a embelli leurs actions et les a ainsi détournés du droit chemin. Ils ne parviennent donc pas à être guidés. Elle mentionna leur adoration du soleil, en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le diable les ayant égarés et détournés de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unique, sans associé. Celui qui fait tomber la pluie et sortir les plantations dans les cieux et sur la terre. Celui qui sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Ainsi, il connaît les secrets et les apparences des choses matérielles et abstraites. Allah, point de divinité digne d'adoration à part lui, le Seigneur du trône immense. C'est-à-dire qu'il possède le trône immense qui est la plus grande des créatures. La huppe décrivit cette situation comme elle l'a vue et la rapporta à Suleyman le plus fidèlement possible en lui laissant lui seul le soin de juger sur leur cas. Face à cette situation, nous verrons comment Suleyman va agir. Que va-t-il décider? Quelle sera sa ligne de conduite? Comment il va mettre en œuvre ses moyens pour ramener cette femme à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'unique, et sortir ces gens-là de l'adoration du soleil, qui est une abominée auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vers l'adoration d'Allah, le maître de l'univers. Nas'alullah jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.